18h. Martha Duarte.
Bonsoir. VFM et NUC sont au coude à coude. Les volleyeuses franc-montagnardes affrontent en ce moment les Neuchâteloises dans ce derby de Ligue A. On se rendra du côté des Breuleurs pour prendre la température sur place avec Michel Léoni. L'histoire est pour le moins cocasse. Les citoyens de Bure étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour une élection libre suite à la démission de leur maire. À la surprise générale, c'est le démissionnaire qui a été réélu. La journée a souri aux sportifs suisses. En tennis, Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie après une belle bataille face à Kei Nishikori. Et sur les pistes de ski, Lara Gut a pris sa revanche en signant le meilleur temps du Super G de Garmisch. Grisailles et brouillards givrants s'étendront jusque vers 800 mètres demain. Plus haut, l'ambiance sera nettement plus agréable grâce à un temps bien ensoleillé. Il fera entre moins 5 et 3 degrés au meilleur de la journée. Début de match serré entre le VFM et le NUC. Les volleyeuses des Franches Montagnes se frottent aux Neuchâteloises en ce moment dans le cadre de ce derby régional de Ligue A. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné à 17h et il y a pour l'instant un set partout. Michel Léoni, vous suivez cette rencontre au Breuleux. Après une heure de match, comment s'en sortent les Jurassiennes ?
Eh bien, plutôt bien. On va dire que le VFM a très bien amorcé le début de match avec un premier set remporté fort logiquement 25 à 17. Le VFM qui a été plus tranchant devant le filet, qui a souvent choisi les bonnes solutions et surtout qui a limité les fautes directes, bien aidé aussi par des Neuchâteloises pas très inspirées. Par contre, dans la deuxième manche, ça s'est compliqué. On a eu affaire à un coude à coude. Le NUC a été en tête presque tout le set avant le retour du VFM, qui a même pris les devants avant de craquer sur la fin de match. Et la deuxième manche qui a donc été remportée par les visiteuses 27 à 25. La troisième manche commence dans un instant, mais vraiment l'issue de ce match est complètement incertaine.
Merci Michel, et on vous retrouve pour la suite du match après ces informations en direct sur RFJ. Un maire qui démissionne, mais qui est réélu quelques semaines plus tard. Une drôle d'histoire vraie qui se passe à Bure, dans le Jura. L'ancien maire Patrick Tsumbul avait démissionné de ses fonctions fin 2016. Ce dimanche se tenait donc une élection complémentaire libre pour lui trouver un remplaçant. Et c'est lui, Patrick Tsumbul, qui a à nouveau été réélu. Jérémy Pignard.
Du jamais vu, de mémoire de René Ria, le vice-maire qui a assuré l'intérim et organisé cette élection. Une élection libre puisqu'aucun candidat ne s'était officiellement déclaré. Les citoyens pouvaient donc voter pour qui ils voulaient au sein de la commune, y compris leur ancien maire. Et ça n'a pas raté. Au total, 25 personnes ont reçu des voix, mais Patrick Tsumbul arrive en tête avec 18 bulletins sur 112 votants. Patrick Tsumbul, celui-là même qui avait annoncé sa démission en octobre dernier pour se consacrer pleinement à ses activités professionnelles. Il a désormais jusqu'à mercredi pour dire si oui ou non il accepte le poste, mais on imagine l'embarras du maire démissionnaire fraîchement réélu et l'embarras du conseil communal. Peu de chance en effet que Patrick Tsumbul revienne sur sa décision. Du coup, à Bure, à peine l'élection terminée, on se prépare déjà à organiser la prochaine.
On reste en Ajoie, mais on se déplace cette fois du côté de Porrentruy. La salle de l'Inter a pris les airs d'autrefois en fin d'après-midi avec un bal d'antan, une manifestation organisée par le musée de l'Hôtel Dieu dans le cadre de l'exposition « À la mode de chez nous ». L'exposition a retracé ces dernières semaines les habitudes de la vie d'autrefois en Ajoie. Elle prendra fin dimanche prochain. Jérémy Pignard, vous êtes sur place dans une ambiance du début du XXe siècle.
Oui, on s'y croirait, Martha, très franchement, avec des gens qui arrivent avec des hautes formes. J'ai vu aussi des queues de pie, vraiment des habits du plus bel effet qui nous replongent complètement dans cette ambiance d'autrefois. Et je suis avec Anne Schild, la conservatrice du musée de l'Hôtel Dieu et organisatrice de l'événement. On s'apprête à revivre un bal d'autrefois. Vous avez en fait voulu nous faire revivre l'une de ces célèbres soirées brintrutaines du début du XXe siècle, c'est ça ?
C'est exactement ça. Donc cette salle date de 1907 précisément. La belle époque, et c'est ce qu'on est en train de revivre un peu aujourd'hui, avec des gens magnifiquement habillés, avec en effet, comme vous le décriviez, des tenues vestimentaires absolument magnifiques. C'est vraiment une très belle soirée.
C'était quoi le bal de l'Inter à l'époque ?
Alors, il y a eu plusieurs balles, différents balles qui se sont déroulées ici à l'Inter. Toutes les sociétés avaient accès à cette salle. Donc, on se remémore en particulier le bal de la Charité. Mais il y a eu d'autres balles, des balles estudiantins, des balles de toutes sortes. Donc, en fait, nous, on fait un bal d'aujourd'hui, un bal moderne. Mais néanmoins, les gens ont plaisir à se réapproprier cette salle qui est absolument unique et magnifique.
Alors, c'est organisé dans le cadre de l'exposition à la mode de chez nous. Le public, ce soir, est venu à la mode d'autrefois. On voit quand même qu'ils ont joué le jeu, hein.
Oui, tout à fait. Mais je crois que tout le monde a grand plaisir quand même à ressortir de ses placards ses plus beaux atours. Et également, des fois, les robes de ses parents, grands-parents. Les habits traversent les époques aussi. Ils font aussi partie de l'histoire. Donc, c'est une très belle soirée de se retrouver comme ça dans une époque d'autrefois, oui.
Anne Schild, je me permets, mais dans votre placard, il y a aussi de très beaux atours parce que vous avez sorti une tenue vraiment fantastique. Racontez-nous un petit peu en quoi elle est justement typique de l'époque.
Eh bien, oui, alors j'ai essayé quand même d'avoir quelques accessoires un peu d'époque. À savoir, j'ai un petit bibi avec une voilette, aussi un tour de cou en imitation fourrure. Mais disons que j'ai voulu m'habiller simple parce que moi, je cours un peu dans tous les sens ce soir. Mais disons, donc c'est vrai que c'est assez chic, j'ai une robe aussi à voilette et puis des escarpins assortis. Donc voilà, mais moi je me suis habillée simplement par rapport à des personnes qui sont vraiment absolument dans des tenues éblouissantes.
Mais pour finir, quand on voit cette salle avec le balcon, vraiment on s'y croirait parce qu'elle est vraiment typique.
Elle est typique cette salle, vraiment elle est magnifique avec encore son décor d'époque. Et puis ce soir nous avons fait aussi une soirée avec une opérette 1900, avec des musiques de Jacques Offenbach, avec un défilé de mode, avec après un orchestre de 20 personnes qui vont jouer et sur les musiques desquelles on va pouvoir danser. C'est vraiment exceptionnel.
Et le coup d'envoi du bal pour le public, c'est à 18h30. Donc Martha, vous avez encore le temps d'enfiler votre plus belle robe et puis de venir nous rejoindre à la salle de l'Inter à Port-Antruy.
Merci Jérémy. Cours cache un trésor. Le village médiéval de Mévilliers, disparu au XIVe siècle, se terre à l'ouest de la commune. En 2010, une demande de permis de construire a été déposée pour ce site. Celle-ci a toutefois été rejetée. Selon le service archéologique du canton de Berne, le projet risquait d'abîmer les vestiges. Plusieurs recours ont ensuite été déposés et l'affaire a finalement connu son épilogue en décembre dernier avec le verdict du tribunal fédéral qui s'est rallié à l'avis du service archéologique. À l'heure actuelle, les fouilles ne sont pas une priorité. Pourtant, il reste encore beaucoup à apprendre sur ce site. Christophe Gerber, archéologue du Jura bernois et chef de projet au service archéologique du canton de Berne.
On pense qu'on a, grosso modo, par rapport aux estimations, parce qu'on a fait des très nombreux sondages en fait, sur toutes les parcelles environnantes, on pense qu'on a peut-être un quart du village qui a été fouillé. Donc un quart, 5-6 bâtiments, etc. Il y en a un particulier qui était en pierre, donc une construction probablement sous la forme d'une espèce de tour ou quelque chose comme ça, et qui montre peut-être un statut aussi social, un peu différent pour son habitant. On ne sait pas si c'était un délégué en fait, du prince-évêque ici sur place ou si c'était simplement une personnalité importante qui avait un lien peut-être avec l'exploitation du minerai de fer ici dans la région.
Des volontaires tessinois sont mobilisés dans des villages italiens bloqués par la neige. Deux groupes de pompiers sont partis avec chasse-neige et fraiseuse. La couche de neige a atteint 3 mètres dans certains villages complètement bloqués. Les difficultés sont grandes et le risque d'avalanche est constant. Les volontaires pourraient rester sur place toute la semaine.
Sport.
La Ragoute est intouchable en Super G, Jérôme Beuchat.
Et oui, la skieuse suisse a signé son 3e succès de l'hiver dans cette discipline en hauteur de course. Elle s'est imposée en début d'après-midi sur la piste allemande de Garmisch, devançant l'Autrichienne Stéphanie Venier et la Liechtensteinoise Tina Weinrather. Cette victoire permet surtout à la bombe de Komano de maintenir son objectif de remporter le classement général de la Coupe du Monde. Les explications de Leonard Reichen.
La Ragoute ne compte plus que 135 points de retard sur sa plus grande rivale, l'américaine Michaela Schifrin. La fin de l'hiver s'annonce déjà palpitante entre les deux championnes. D'un côté, la tessinoise survole les épreuves de vitesse, invaincue en Super G cette saison et deuxième du classement de descente. De l'autre, Michaela Schifrin semble intouchable en slalom malgré une sortie de piste à Zagreb et reste plus rapide que la Ragoute en géant. Le grand globe de cristal risque bien de se jouer lors des deux combinés qu'il reste restent encore à disputer, où une descente et une manche de slalom sont additionnées, soit les disciplines où les deux athlètes sont le plus et le moins à l'aise.
Et sachez que ces deux combinés se dérouleront à Crans-Montana. La station valaisanne devait en accueillir qu'un seul le 24 février. Un second a finalement été ajouté le 26. C'est celui qui a été annulé la semaine passée à Altenmarkt. Le 25 février, Crans-Montana sera aussi le théâtre d'un Super G. Il aura manqué une demi-seconde pour que la Suisse fait un podium en slalom à Kitzbühel. Daniel Juhl a terminé à la 5e place de l'épreuve de Coupe du Monde masculine de ski alpin cet après-midi, remportée par l'Autrichien Marcel Hirscher devant son public. Le Valaisan est donc toujours à la recherche de son premier top 3, lui qui avait réalisé un 4e rang à Zagreb en début d'année. Avant cette course de Kitzbühel, il avait prédit une piste très difficile. Finalement, il s'en est bien sorti, Daniel Juhl.
Finalement, je m'en suis bien sorti, mais... C'était pas le grand plaisir à skier aujourd'hui, c'était vraiment des conditions extrêmes avec la piste qui marquait un petit peu, des mouvements de terrain vraiment marqués, mais je suis vraiment content avec cette 5e place aujourd'hui, je crois que je me suis battu et c'était ça qui comptait aujourd'hui, il fallait vraiment se battre et de ce côté-là, en plus, après la déception de Wengen, je suis vraiment, vraiment satisfait.
Ramon Seineser, votre coéquipier, disait c'est la piste la plus dure de la saison, vous êtes d'accord?
Ouais, en tout cas, là, je crois que c'est le slalom le plus dur que j'ai fait de ma carrière. Vraiment, la neige était dure, mais ça cassait par endroits. Il y avait des mouvements de terrain, c'était... Ouais, il y avait tout, quoi. Et je crois que de ce côté-là, je suis encore plus content de cette 5e place.
Un sujet réalisé par notre envoyé spécial à Kitzbühel, Justin Gray. Un autre Suisse a réussi à tirer son épingle du jeu. Ramon Seineusern s'est classé 12e. La Suisse a réalisé une grande performance en ski de fond. Le relais masculin a pris la 4e place de l'épreuve Coupe du Monde de Ulricehamn en Suède. Dario Colonia, Tony Livers, Jonas Baumann et Kördin Perl ont réalisé le meilleur résultat de l'histoire après la victoire de 2010 à La Clusaz. C'est la Norvège qui s'est adjugée cette course. Roger Federer a livré une performance de choix. Le Balois s'est qualifié en début d'après-midi pour les quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis. Il est venu à bout du japonais Kei Nishikori, 5e mondial. Au bout du suspense, il aura fallu 5 manches et 3h24 de jeu au maître pour s'imposer 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 et 6-3. Pourtant, rien ne présageait un tel scénario après un début de rencontre totalement manqué par Roger Federer.
C'est pas un sprint en 5-7, c'est toujours la ligne d'arrivée, c'est quand même assez loin. Alors tu peux rester plus calme que si ça serait quelque part sur un meilleur de 3 manches. Je pense quand même que ça m'a aidé de rester calme, de revenir un peu dans le match. Pour finir de perdre le premier, c'était dommage parce que j'ai quand même aussi utilisé beaucoup d'énergie pour revenir, mental et physique. Mais je suis arrivé dans ce deuxième set avec une meilleure sensation, moi. Tu apprends toujours beaucoup de choses dans les meilleurs de 5-7, surtout quand tu vas 5-7, parce que tu as comme plusieurs vies. Et tu te sens mieux et moins bien sur la durée d'un match de 5-7, voilà. Mais en tout cas, je me suis très bien senti au 5e set, et ça c'était le plus important.
Roger Federer défiera au prochain tour l'Allemand Micha Zverev, tombeur du Britannique et numéro 1 mondial Andy Murray. Et avant le succès du Balois ce matin, c'est Stan Wawrinka qui s'est aussi qualifié pour les quarts de finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Une victoire 7-6, 7-6, 7-6 face à l'Italien Andrea Seppi. Le Vaudois retrouvera sur son chemin le Français Joe Wilfried Tsonga. Et chez les dames, la surprise du jour est venue de Coco Vandeweghe. L'Américaine a éliminé la numéro 1 mondiale, l'Allemande Angélique Kerber, au stade des 8e de finale. Et vous l'avez entendu dans le journal, Volleyball Franche-Montagne affronte le Neuchâtel Université Club en ce moment. On passe vite par la salle des Breleux pour regarder le score. Il est d'une manche partout et c'est 12-11 dans le troisième set en faveur des Neuchâteloises.
Le journal du Monte-Carlo avec la gamme de véhicules Ford 4x4 à découvrir et essayer au garage de la Rochette à Tavannes, votre nouveau partenaire Ford de la région.
Olivier Bourri a agrandi sa collection de trophées. Le pilote de Belpraon a pris la 2e place de la catégorie amateur du rallye automobile de Monte-Carlo cet après-midi avec son navigateur Stéphane Rey. Le duo n'a été devancé que par le Suédois Pontus Tidemand. Le Scandinave s'est imposé avec presque 9 minutes d'avance. Le Tchèque Andrei Bissa complète le podium avec un quart d'heure de retard sur le duo Bourri-Rey. Et Olivier Bourri peut également se réjouir de sa performance au classement général du championnat du monde de ce rallye de Monte-Carlo. Carlo. Au volant de sa Ford Fiesta, il a terminé les 4 jours de l'épreuve au 14e rang. Le pilote de Belpraon aura concédé 27 minutes au vainqueur, le Français Sébastien Ogier.
Le Le journal du Monte-Carlo avec la gamme de véhicules Ford 4x4. À découvrir et essayer au garage de La Rochette à Tavannes. Votre nouveau partenaire Ford de la région.
Grisaille et brouillard givrants composeront le menu météo demain jusque vers 800 mètres environ et les nuages auront du mal à se disperser. En hauteur, en revanche, l'ambiance s'annonce bien plus agréable. Le temps sera ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude qui resteront possibles. Les températures seront très froides. Au meilleur de la journée, le thermomètre affichera moins 5 degrés à Tavannes et à Saint-Imier, moins 4 degrés à Bienne, moins 2 à Moutier et à Delémont et 3 degrés à Signes-Légier. Belle soirée et bonne semaine.